Pilote en détresse, de Katia Canciani, et c'est paru dans J'aime lire. Avis de tempête. À l'aéroport de Purvinituk, un petit village inuit situé dans le nord du Québec, cette soirée de début novembre s'annonce tranquille. Otoki et son père sont dans la tour de contrôle au deuxième étage de l'aérogare. Le garçon est heureux. Depuis le jour de ses 10 ans, il y a une semaine, il peut accompagner son père à son travail. Le père d'Otoki, Amituk, s'occupe de la tour de contrôle durant la journée. C'est lui qui informe les pilotes des conditions météorologiques. Il s'assure aussi que la piste est toujours dégagée. Amituk observe le temps à travers la baie vitrée. Il dit à son fils « Une tempête de neige se prépare. Cet après-midi, Elsa est partie en avion chercher un malade à Ivujivik, mais elle ne m'a pas donné de nouvelles. Avec ce temps, elle a dû décider de rester là-bas pour la nuit. Nous allons fermer. » Otoki est déçu, il aurait tellement aimé assister à l'arrivée de l'avion d'Elsa. « Et le malade ?» s'inquiète le garçon. « Les pilotes font leur possible. Peut-être qu'il y a eu des retards et qu'Elsa n'a pas pu décoller. Elle arrivera demain. » Otoki scrute le ciel une dernière fois. Il pense à la personne malade. Son état s'aggravera-t-il si Elsa ne peut la transporter rapidement jusqu'ici? L'hôpital de Purvinituk est le seul de toute la région. Otoki sort de sa rêverie et propose. « Tu veux que j'éteigne la radio, papa ?»« Oui, merci, mon garçon. » Lorsqu'il sort de l'aérogare, Amituk tend les clés du quad à son fils. « Tu nous ramènes à la maison ?» Otoki rayonne de joie, il adore conduire le quad, et encore plus si son père est assis à l'arrière. Malgré le froid, tous deux ont le sourire aux lèvres en filant sur la mince couche de neige qui a déjà commencé à recouvrir la toundra. Ce soir, c'est la fête au village. Tous les habitants se réunissent pour célébrer l'ouverture du nouvel aréna. Un aréna, c'est un bâtiment abritant une patinoire. Otoki et son amie Sarah, après avoir beaucoup hésité, ont décidé de ne pas y aller. Ils doivent absolument terminer leur sculpture, une œuvre commune qui doit être exposée dans la vitrine de l'école dans quelques jours. Le père de Sarah dépose sa fille chez Otoki, puis il propose à Amituk de l'emmener à la fête. En quittant les enfants, Amituk leur précise « Le téléphone ne fonctionne pas encore à l'aréna. Il sera donc impossible de nous joindre. Soyez sages jusqu'à notre tour. » Même s'ils se sont vus à l'école toute la journée, Sarah et Otoki sont contents de se retrouver, car ce sont les deux meilleurs amis de Nunavik. Dès que leurs pères sont partis, ils reprennent leur projet d'art là où ils l'ont laissé le soir précédent. Otoki sculpte un chasseur en kayak et Sarah fait un narval. Le son des ciseaux à pierre résonne joyeusement à leurs oreilles. Une demi-heure plus tard, un ronronnement de moteur vient les interrompre dans leur travail. Surpris, les apprentis sculpteurs lèvent la tête en même temps. L'avion d'Elsa. Otoki et Sarah posent leurs ciseaux à pierre. « On dirait un avion !» s'étonne Sarah. « Impossible !» répond Otoki. « Mon père m'a dit qu'à cause de l'arrivée de la tempête, les avions resteraient au sol cette nuit. » Les deux amis sortent. Otoki essaye d'identifier l'avion au loin, mais c'est pas évident. Même s'il n'est que 18h, il fait déjà nuit. Il distingue cependant l'ours polaire peint sur la queue. C'est bien l'avion d'Elsa, sa pilote préférée. Otoki remarque aussi que l'avion balance des ailes. On dirait qu'Elsa essaye d'attirer notre attention. « Pourquoi vient-elle au-dessus de ta maison au lieu d'atterrir à l'aéroport ?» demande Sarah. Otoki comprend immédiatement. « Elsa demande de l'aide et il doit y avoir un problème à l'aéroport. » Dans cette région isolée, les téléphones portables ne fonctionnent pas. Et Sarah se souvient que la ligne téléphonique n'est pas encore reliée à l'aréna. Elle demande « On va chercher ton père ?» Otoki évalue le temps qu'il faudrait pour aller jusqu'à l'aréna puis pour retrouver son père parmi la foule. « Non, trop long !» déclare Otoki. « Allons à l'aéroport, je sais utiliser la radio. » Elsa nous expliquera ce qui se passe. Les deux amis se dépêchent d'enfiler leur anorak. Otoki met les clés de l'aérogare dans sa poche. Ensuite, il attrape celle du quad et rassure Sarah. « Y a pas de souci, je peux le conduire. » Otoki fait souvent ce chemin avec son père, mais ce soir, c'est Sarah qui est installée sur le quad derrière lui. Quand ils arrivent, Elsa décrit de grands cercles dans le ciel. La neige a commencé à tomber. Parfois, l'avion disparaît dans les nuages. Otoki s'empresse de déverrouiller les portes de l'aérogare. Sarah et lui montent en vitesse les marches qui mènent à la tour de contrôle. Otoki se dirige tout de suite vers la radio. Il l'ouvre puis il prend le micro. « Elsa, c'est moi, Otoki. »« Otoki, mais où est ton père? Il est à l'inauguration de l'aréna, veux-tu que j'aille le chercher ?»« Pas le temps, » répond Elsa. « Tu as bien fait de venir immédiatement. » La pilote poursuit. « J'ai dû faire des détours à cause de la tempête. Je n'ai plus beaucoup de carburant. Je ne peux pas rebrousser chemin. J'ai une passagère qui est sur le point d'accoucher. Elle doit absolument aller à l'hôpital. » Sarah et Otoki se dévisagent. La situation est beaucoup plus urgente qu'ils ne le croyaient. « Je ne parviens pas à allumer les lumières de la piste. »« Peux-tu regarder pourquoi ?» demande la pilote. « Bien sûr. » Otoki sait que lorsqu'un pilote approche de l'aéroport, il peut activer à distance l'allumage des lumières de la piste en cliquant simplement 5 fois sur l'interrupteur de son micro. Il s'est dit, peut-être que papa a oublié de mettre le système en route avant de partir. Otoki se dirige à l'autre bout de la pièce, là où se trouve le panneau d'éclairage de l'aéroport. Mais devant lui, il y a toute une série d'interrupteurs. Lequel choisir ? Les lumières de la piste. Otoki observe les interrupteurs. Son père doit les connaître par cœur car aucun n'a d'étiquette pour indiquer à quoi il sert. Pas de chance. Sarah encourage son ami. On n'a qu'à les essayer un par un. Otoki enclenche un premier interrupteur. Lumière de la salle d'attente, annonce Sarah. D'un geste rapide, le garçon en actionne un deuxième. Devant le hangar, les projecteurs s'allument. C'est pas ça, constate son ami. 5 clics résonnent à la radio. C'est Elsa qui tente de faire marcher son activateur de lumière. La pilote rapporte d'une voix tendue. Ça fonctionne toujours pas. La main d'Otoki tremble un peu. Le troisième interrupteur active une série de lumières brillantes devant l'aérogare. Sarah demande à Otoki. Es-tu certain que ce sont ces boutons ? Otoki répond. J'en suis presque certain. Tu peux regarder si tu en vois d'autres ? Sarah fait le tour de la pièce mais ne remarque qu'un porte-voix derrière le bureau. Otoki enclenche 2 autres interrupteurs. La station d'approvisionnement en carburant et le manche avant s'illuminent. Il ne reste plus qu'un interrupteur. Il faut que ce soit celui-là, pense Otoki, en appuyant sur le bouton. Au même moment, 5 clics se font entendre à la radio. C'est Elsa qui vérifie le système une nouvelle fois. Le garçon retient son souffle. 1 seconde, 2 secondes, de chaque côté de la piste, les lumières blanches s'allument. La voix d'Elsa retentit aussitôt. « Bravo, Otoki !» Pour détendre l'atmosphère, elle lance. « Avec cet éclairage, j'ai l'impression de survoler une grande ville. » Otoki et Sarah, heureux, sortent pour regarder l'atterrissage. La neige tombe désormais à gros flocons. L'appareil effectue son approche à travers les rafales. « Tu crois que maman va accoucher dans l'avion ?»« Que la maman va accoucher dans l'avion ?» demande Sarah. Son ami sursaute. « J'espère que non. De toute façon, elle sera bientôt au sol. Il n'y a plus rien à craindre. » Mais juste avant de poser les roues sur la piste, Elsa remet précipitamment les gaz et reprend l'altitude. Les caribous. Otoki grimpe en courant l'escalier qui mène à la tour et reprend le micro pour s'adresser à la pilote. « Que se passe-t-il, Elsa ?» Elle explique. « Au moment où j'allais me poser, 2 caribous sont venus se mettre sur la piste. Il faut les faire fuir. Je ne peux pas atterrir tant qu'ils sont là et il me reste que 15 minutes de carburant. » Otoki sent son cœur s'accélérer. Il rassure Elsa. « On s'en occupe tout de suite. Faites vite et lorsque nous aurons atterri, ajoute Elsa, il faudra que quelqu'un soit là pour emmener ma passagère à l'hôpital. » Otoki descend en vitesse pour retrouver Sarah dehors. En sautant sur son quad, il lui explique. « Je vais éloigner les caribous qui sont sur la piste. Toi, téléphone à l'hôpital, il faut qu'une ambulance soit là pour transporter la maman dès que l'avion se sera posé. » Tandis que Sarah tente de joindre l'hôpital, Otoki fonce vers la piste qui commence à se couvrir de neige. Le garçon repère tout de suite les gros animaux. Il y en a désormais 12. Malheureusement, ils n'ont pas l'air très impressionnés par le quad. En fait, ils lèchent le sel qui a été répandu sur la piste pour la déglacer. Et sont trop occupés à se délecter. Otoki s'approche d'un caribou. L'animal s'éloigne. Le garçon file vers un deuxième. Il charge ainsi les caribous un à un. Lorsqu'il arrive au bout de la piste, il pense les avoir tous fait détaler. Satisfait, il veut rebrousser chemin. Lorsqu'il réalise que ses entêtés se sont seulement déplacés de quelques mètres. Mais Otoki est têtu lui aussi, il revient à la charge. Pourtant, dès que le quad s'éloigne, les caribous retournent aussitôt sur la piste. Otoki fulmine. Oh, « Ça sert à rien !» Au même moment, Elsa repasse au-dessus de la piste. Elle ne peut toujours pas se poser. Le cœur d'Otoki se fait plus lourd dans sa poitrine. « J'espère que tout va bien dans l'avion, » se dit le garçon. Le temps presse. Otoki rejoint Sarah dans la tour. « J'arrive pas à chasser les caribous, » lui explique-t-il en reprenant son souffle. Son amie réfléchit. Elle repense au porte-voix derrière le bureau. « Et si on essayait avec le porte-voix, je pourrais m'installer derrière toi sur le quad et crier pour effrayer les caribous ?» Découragé, Otoki hausse les épaules. Même le son du moteur de l'avion ne les fait pas fuir. Sarah suggère. « Peut-être qu'Elsa n'est pas descendue assez bas. » À cet instant, la radio grésille. « Otoki, tu es là ?» demande la pilote. Le garçon lui répond aussitôt. Elsa poursuit. « Je ne parviens pas à évaluer mon altitude à cause de la tempête de neige. Quand je descends, tout est blanc. Pour savoir exactement à quelle hauteur je me trouve avec mon altimètre, il me faudrait le calage altimétrique. Saurais-tu trouver ce nombre sur la console ?» Otoki se souvient des explications de son père. Le pilote doit ajuster ses chiffres sur son indicateur d'altitude lorsqu'il s'approche de l'aéroport. Le garçon observe longuement les nombreux écrans de la console. Il y a tellement de chiffres. Puis il ouvre le micro. « Elsa, je crois que je l'ai. »« Formidable, dis-moi ce que tu vois. »« 2, 9, 2, 5, » articule le garçon. « Parfait, » lance la pilote. « Maintenant, on y est, mais mon niveau de carburant est très bas. » Si je repasse au-dessus de la piste pour éloigner les caribous, j'aurai plus rien pour atterrir. On s'en occupe, Elsa, donne-nous encore 3 minutes. Dépêchez-vous, si ça continue, ma passagère va accoucher dans l'avion. Il n'y a pas une seconde à perdre. Le porte-voix à la main, Sarah s'installe sur le quad derrière Otoki. Sur la piste. Cette fois, dès qu'Otoki s'approche des caribous, ceux-ci lèvent la tête. Les cris et les injures que leur lance Sarah dans le porte-voix y sont pour quelque chose. À l'arrière du quad, elle s'époumonne. Fichez le camp, les tuctus, déguerpissez! Sa voix résonne dans l'air froid. Dégagez, bande de fainéants à quatre pattes, je vais vous en donner, moi, du sel de déglaçage. Otoki ne peut s'empêcher de sourire. Les caribous n'apprécient pas ce tapage, plusieurs s'éloignent en courant avant même que le quad les charge. Sarah continue de crier dans son porte-voix. Tas de bois, retournez chez le Père Noël! Bientôt, tous les caribous sont repartis vers la toundra. Elsa réessaie d'atterrir, s'exclame Sarah. Otoki se place bien à l'écart de la piste. Puis à travers le rideau de neige, les deux amis observent l'avion secoué par les vents forts. Cette fois, ce sera la bonne, affirme le garçon pour garder confiance. L'ambulance arrive derrière eux. Le médecin et l'infirmière en sortent à la hâte. Otoki explique. Elsa nous a dit que sa passagère allait accoucher. On va bien s'occuper d'elle, rassure le médecin. Peu après, de nombreuses motoneiges se garent près de l'ambulance. La nouvelle s'est propagée jusqu'à l'aréna. Le père d'Otoki accourt avec son fils, il lui passe la main dans les cheveux. « Je vois que t'as trouvé toutes les lumières », se contente de dire en hochant la tête. Mais la fierté se lit sur son visage. Otoki sourit. Les roues de l'avion touchent enfin la piste. La neige tourbillonne autour de l'appareil qui ralentit puis s'immobilise. Tout se précipite vers l'avion dont Elsa ouvre rapidement la porte. Le docteur et l'infirmière s'engouffrent dans l'appareil et la porte se referme. Les minutes qui passent sont interminables. Nerveux, Otoki prend la main de Sarah et la serre très fort. Il murmure « J'espère que... » Il interrompt sa phrase à la vue de la poignée qui bouge. Elsa réapparaît toute menue dans sa combinaison de vol. Elle semble épuisée, mais un immense sourire illumine son visage. « J'ai le grand bonheur de vous annoncer la naissance de jumeaux, un garçon et une fille sur le tarmac de l'aéroport de Purvinituk. La maman et les bébés se portent bien. » Les applaudissements et les félicitations fusent de partout. La nouvelle petite famille est aussitôt conduite à l'hôpital pour les examens habituels. Otoki et Sarah sont très émus. Elsa les rejoint et soupire. « Grâce à vous, j'ai pu atterrir à temps. Je vous dois une fière chandelle. » Otoki réplique avec un sourire. « Une chandelle? Je préférerais un gâteau. » La pilote se reprend. « Je vous dois un immense gâteau au chocolat, alors. » La pilote serre les deux amis contre elle. Sarah demande. « Comment la maman va-t-elle appeler ses enfants ?» Elsa répond. « Je sais pas, mais juste après la naissance des jumeaux, elle m'a demandé vos prénoms. » Otoki et Sarah se regardent en souriant. Des jumeaux qui porteraient leur prénom, ce serait trop chouette.